9h37, la pandémie actuelle amène son lot de restrictions, de mesures sanitaires qui nous sont imposées, qui sont levées, réimposées, sans perdre de vue ce courant qui est assez important depuis les dernières années, d'imposer une espèce de dictat alimentaire. Voici ce qui est bon pour vous, voici ce qui n'est pas bon pour vous. Et bref, de créer un environnement où les gens qui contreviennent à ces dictats se sentent coupables. Le professeur David Kayat est avec nous. Il a été chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur aujourd'hui de cancérologie à l'Université Pierre et Marie Curie, professeur également adjoint aux États-Unis. Il nous propose un livre qui a pour titre « Arrêtez de vous priver, manger, boire, bien vivre, tout est enfin possible ». Docteur Kayat, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je vais aller dans le plus mécanique tantôt, mais je veux aborder d'entrée de jeu l'aspect philosophique. J'ai lu votre livre et ce qu'on retient, il y a beaucoup de choses là, mais un des éléments forts, c'est que la culpabilité est en train de nuire à la santé des gens davantage que parfois les abus qu'ils peuvent commettre.
Bien entendu, on le sent tous autour de nous, notamment dans ces jeunes femmes qui cherchent à avoir un poids idéal et qui font du yo-yo en perdant 10 kilos, en reprenant 12. Toutes ces marques qu'on vous propose de vous livrer des repas pour perdre du poids. Mais c'est vrai, pas uniquement dans l'alimentation et le poids, c'est vrai sur à peu près tous les domaines. On est rentré dans une période dans laquelle la pensée sociale dominante, c'est une pensée hygiéniste qui veut nous faire rechercher l'idéal, le corps idéal, le psychisme idéal, l'activité idéale. Alors on nous dit, et ne mangez pas de sucre, ça donne du diabète, pas de sel, de l'hypertension, pas de gras, de l'artérosclérose, pas de charcuterie et de viande, ça donne des cancers du côlon. Ne buvez pas de vin, c'est mauvais pour la santé. N'allez pas au soleil. Mais à un moment donné, bon sang, laissez-nous vivre. Ce qui est dangereux n'est pas forcément risqué. Dans le livre, j'explique vraiment la différence entre un danger et un risque. Et ensuite et surtout, il s'agit d'avoir un équilibre dans la vie, ce qui veut dire que rien ne vous empêche de faire un excès de temps en temps et d'équilibrer ensuite. Et comme personne n'arrive à suivre tous ces dictats, ce corps, cette tyrannie de l'idéal, ce corps parfait, pas un kilo trop, l'indice de masse corporelle à 25, etc., quand on n'y arrive pas, on se sent quoi ? Regardez le regard de la société sur les gens qui sont un peu gros. On vous culpabilise en disant, mais bon sang, tu gâches ta vie, tu gâches ta santé, tu ne mérites pas, le type qui n'arrive pas à arrêter de fumer, mais tu es un être faible, tu ne mérites pas qu'on te soigne si tu as un cancer du poumon. Et donc, à un moment donné, ces gens qui luttent tous les jours, dans tout ce qu'ils ne comprennent plus d'ailleurs, dans tous ces dictats, ces injonctions, le sel, le sucre, le vin, le machin, eh ben ils se perdent dans tout ça, ils n'y arrivent pas, et ça leur fait une dégradation de leur image, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, avec cette idée de culpabilité. Et finalement, cette culpabilité, elle fait du mal d'abord parce qu'elle est un stress considérable, et ensuite elle fait du mal parce qu'une fois qu'on a cette image dégradée de soi, on ne croit plus en soi.
Mais dans le livre, d'abord, vous expliquez les mécanismes du cerveau, les raisons de certaines dépendances ou de certaines récompenses qu'on trouve avec l'alcool, avec la nourriture, par exemple. Mais vous reconnaissez les problèmes liés au tabagisme, vous reconnaissez les problèmes liés, je ne sais pas moi, à une surconsommation de sucre. Vous n'êtes pas en train de dire que tout ça n'existe pas?
Ah, mais pas du tout. Je suis professeur de médecine depuis 45 ans, donc je ne vais certainement pas être un charlatan. Non. Sur le tabac, par exemple, ce que je dis, c'est que, regardez les chiffres. Vous avez une étude récente aux États-Unis qui montre qu'un peu plus de 70% des gens qui fument voudraient s'arrêter de fumer. Montre que 60% à peu près d'entre eux essayent de s'arrêter de fumer. Et quand on regarde combien ils sont arrivés, 7,5%. C'est un échec total. Alors, par rapport à ça, l'idée, c'est pas de fumer des cigarettes, c'est de dire, est-ce qu'il existe des alternatives pour ceux qui ont cette addiction à la nicotine, qui en ont besoin tous les jours, comme d'autres vont avoir l'addiction au sucre ou l'addiction à l'alcool, puisque vous me parlez du tabac, est-ce qu'il existe dans le tabac des innovations technologiques pour réduire les risques liés au tabac, comme on a mis des airbags ou des ABS dans les voitures pour diminuer le risque de conduire ou de mal conduire? Eh bien, il en existe, la cigarette électronique, le tabac chauffé, le snus. Or, personne n'en parle, on fait comme si ça n'existait pas. On traite le tabagisme comme on traitait la dépression il y a 20 ans. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, quelqu'un qui était déprimé, qui ne bougeait pas, qui ne sortait pas du lit, on lui disait, mais enfin, lève-toi, il y en a marre, t'es un idiot, fais quelque chose, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est une maladie. Il faut soigner ces gens, il faut soigner les gens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, il faut les aider plutôt que de les condamner. Et sur le circuit de la récompense, cette fameuse qui vous incite à prendre du sucre régulièrement, qui est qui est lié au fait que le premier récepteur qui apparaît dans la bouche d'un enfant qui vient de naître, c'est celui du sucre, celui de la mer, de l'acide, du salé, n'apparaîtront que plus tard. Donc ce petit bébé qui vient de naître, on lui met le mamelon de sa mère, une goutte de lait qui est très sucrée qui lui rentre dans la bouche, et il va associer ce plaisir avec l'idée d'être pris dans les mains de sa mère, le contact avec le sein, et c'est ce qu'on va appeler le circuit de la récompense. Il a tété, il a été heureux, et toute sa vie, il va chercher à avoir du sucre dans la bouche. Alors tant que vous contrôlez ça, ben, c'est pas très grave. Mais quand vous le contrôlez plus, c'est-à-dire que tous les jours vous en voulez plus, ça devient une addiction. Et dans le livre, j'explique comment on passe d'un plaisir à une addiction et comment il faut traiter ces addictions pour... Alors, encore une fois, quand vous parlez de... Je suis naturellement... Moi, quand je parle d'excès, c'est d'excès de temps en temps, d'équilibrer ses excès sur sa vie. Par exemple, quand je fais un énorme gueuleton avec des copains. En France, je suis assez connu pour être très lié avec beaucoup de chefs, de cuisiniers. Je fais un gros gueuleton, ben très bien. Le soir, je vais prendre un bouillon et pendant 16 heures, je vais faire une diète hydrique de manière à ce que finalement, j'ai à la fois eu le plaisir de l'excès, je m'en suis pas privé, mais en même temps, sur 24 heures, j'aurais équilibré ma prise calorique.
Mais la notion d'équilibre est importante dans votre livre. Vous y revenez souvent et aussi l'espèce de besoin de rituel et de tradition, c'est-à-dire de prendre du temps. Vous me parlez d'un gueuleton, c'est mieux ça que d'enfiler de la nourriture industrielle rapidement, là.
Ah ben écoutez, il n'a jamais été montré, jamais, moi je suis un spécialiste du cancer depuis 45 ans, mais il n'a jamais été démontré que manger trop de temps en temps augmentait le risque de cancer, alors qu'il a été démontré que manger n'importe quoi, notamment cette nourriture ultra transformée, ces plats qui sont ces cordons bleus bourrés d'additifs qui ressemblent finalement, enfin tous ces plats qu'on voit qui ressemblent à des boîtes à pharmacie, tellement il y a d'additifs dedans, des E machin, etc. Et ben ça c'est mauvais pour la santé. Mais arrêtez de penser que manger un bœuf bourguignon ou je sais pas quoi, un cassoulet ou faire plaisir même avec une portion de frites et une côte de bœuf, c'est pas ça qui va vous tuer. Arrêtez d'avoir peur. Encore une fois, pardon, je voudrais insister sur la différence entre le danger et le risque.
Oui.
Si vous permettez, comment l'expliquer à un enfant? Ben, je vais vous prendre un exemple très simple, une métaphore. Le grand requin blanc, vous savez, les dents de la mer, c'est un animal dangereux pour l'homme. Très bien. Où est-ce qu'il est? Dans l'océan. Donc, aller dans la mer, c'est dangereux. Oui, mais est-ce que c'est risqué? Non, parce que la probabilité que vous rencontriez un requin, elle est nulle. Mais on vous fait peur, on vous dit attention, les requins.
Okay, mais alors, ça vient d'où ce lobby de la peur, selon vous? Pourquoi ce discours, au fil des ans, s'est imposé?
Ben, parce que finalement, on voudrait nous faire penser que, comme on ne voit plus la mort, parce qu'il n'y a plus de cortège funéraire, il n'y a plus de veillée des morts, comme moi j'ai vu des milliers de morts dans mon métier, mais la plupart des gens ne voient plus la mort. Ils finissent par penser que peut-être on va pouvoir s'en passer de la mort. Et la société nous fait fantasmer dans l'idée que dans notre vie, nous ne connaîtrons pas ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Si nous suivons toutes ces injonctions, ne pas manger de sel, de sucre, de viande, de charcuterie, ne pas aller au soleil, ne pas, etc., on va plus vieillir, on va plus être malade et on va plus mourir. Mais c'est totalement faux. On va tous vieillir, tous être malades et tous mourir. Alors, la seule question, c'est que finalement, cette vie que nous avons est un cadeau merveilleux qui implique deux choses, deux obligations, deux devoirs. Un, c'est respecter cette vie et donc veiller à son corps en faisant de l'activité. Et que j'explique, l'activité, c'est pas forcément le sport. Parce que ma secrétaire qui a une heure de transport, 8 heures de travail, 1 heure de transport le soir, elle va faire qu'en courir 1 heure. Mais par contre, de l'activité, elle peut. Par exemple, téléphoner les 42 coups de fil qu'elle a dans la journée, les faire debout, mais ça va lui faire une activité. Nettoyer sa salle de bain pendant une demi-heure, c'est 200 calories. Bon, alors respecter son corps et respecter, en faisant attention à sa vie, et respecter la vie en faisant en sorte qu'elle vous apporte du bonheur et du plaisir. Donc arrêtez de vous priver.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, docteur Kayat.
Merci beaucoup,
monsieur. Merci, au revoir. Alors, si le livre vous intéresse, publié chez Albin Michel, arrêtez de vous priver. Vous pouvez manger, boire et bien vivre. Tout est enfin possible. Mais je veux que ça soit quand même clair pour éviter toute forme de confusion. Et c'est pour ça qu'il a lui-même insisté, là. Pas en train de dire que la cigarette, c'est bon pour la santé puis que de boire un 40 once d'alcool par jour, c'est une bonne affaire. C'est une question de dosage. C'est une question d'équilibre et de sauter un repas après avoir pris un repas plus copieux puis d'avoir bu un peu trop la veille puis de ne pas continuer le lendemain puis d'en faire, disons, quelque chose de permanent, ben ça va de soi. Et c'est mieux ça que de se sentir coupable à chaque fois, de dire « ben ça, j'ose pas, puis ça, je veux pas, puis ça... » la culpabilité, qui est, disons, un courant dominant, fait en sorte que les gens deviennent plus anxieux. Et dans le livre, il explique aussi assez bien les mécanismes du cerveau qui, disons, nous aident à comprendre toutes les notions de dépendance puis les notions de plaisir reliées à la consommation de ces produits. Savez-vous quoi? Dans une période comme la nôtre, de se faire dire par un médecin quand même qui, depuis 40 ans, travaille là-dessus, que t'es pas obligé d'aller faire du jogging parce que c'est tendance, mais que si tu t'arrêtes, je sais pas, une station de métro ou d'autobus plus vite puis que tu fais le reste du parcours à pied, ben c'est correct pour la santé aussi. Et il donne plein d'exemples assez pratiques de ça, en disant, ben oui, on n'aurait pas dû ouvrir la bouteille de rouge, elle est ouverte. On va la finir, puis demain, on sera un peu plus tranquille. Et on ne conduit pas. Pause 9h48, on revient après, en conclusion.